La dépression est un problème de santé publique qui s'est accentué ces dernières années. Son coût est énorme, 113 milliards d'euros en Europe. Catherine Belzung, vous êtes neurobiologiste. Vous dirigez à Tours une centaine de chercheurs qui planchent sur la dépression au sein de l'unité INSERM Imagerie et Cerveau. Peut-on dire que la question de la dépression est complexe ?
La question est évidemment complexe puisqu'il s'agit d'une pathologie qui est déjà assez difficile à définir, comme on l'a vu dans l'émission précédente. Sa description n'est pas simple. Et puis, si on étudie la dépression sur le plan biologique, on va voir aussi qu'il n'y a pas un mécanisme unique qui permet de l'expliquer. Il y a des dérèglements dans différents systèmes du corps, c'est-à-dire à la fois au niveau hormonal, au niveau cérébral, au niveau intestinal. C'est une pathologie qu'on ne peut pas définir avec un mot simple.
Alors, qu'est-ce qui se passe déjà dans le cerveau ?
Ce qui se passe dans le cerveau, c'est-à-dire dans le cerveau humain, on le perçoit un petit peu comme un organe qui n'est pas non plus homogène. Dans le cerveau, il y a plusieurs régions qui ont des fonctions différentes. Donc, par exemple, il y a une région qui s'est située juste sous le front, alors on l'appelle le cortex préfrontal, qui nous permet, par exemple, d'inhiber, c'est un processus d'inhibition. C'est-à-dire, avec cette zone, je peux à la fois inhiber des comportements indésirables, donc elle permet d'inhiber des comportements, mais elle permet aussi d'inhiber des pensées. Moi, par exemple, s'il me vient une pensée négative, je peux me dire « mais arrête de te focaliser sur ces pensées négatives ». Il faut interrompre ça. Arrête de ruminer. Je peux me dire ça parce que j'ai un cortex préfrontal qui fonctionne et qui me permet ces processus d'inhibition.
Et vous pouvez, dans ces cas-là, par exemple, dire « je choisis plus de regarder le positif ».
Voilà. Donc, on peut interrompre ces phénomènes négatifs grâce à ce cortex préfrontal. Chez les personnes déprimées, le cortex préfrontal est dysfonctionnel. Il fonctionne moins bien. Donc, ces processus d'inhibition sont moins efficaces. Une autre zone qui dysfonctionne également dans la dépression, c'est une zone qui s'appelle l'amygdale. Elle s'appelle amygdale parce que, alors elle est située dans les lobes temporaux, mais elle ressemble à une petite amande. Faut pas le confondre avec l'amygdale qu'on a dans la gorge, hein, parce qu'il y a une autre amygdale. Hein. C'est pas la même. Il y a aussi une région du cerveau qui s'appelle amygdale. Et cette région-là, elle est importante pour la peur et le stress. C'est-à-dire, elle est hyperactive quand on est stressé ou anxieux. Or, cette région-là, le cortex préfrontal, dont on a parlé tout à l'heure, était moins efficace. L'amygdale, elle, chez les déprimés, est plus efficace. C'est-à-dire cette structure qui participe aux réactions de stress et d'anxiété, elle surfonctionne chez la personne déprimée. Donc ça veut dire que cette personne, elle est plus stressée,
anxieuse. Elle
est plus anxieuse, parce que cette région-là est hyperactive. Il y a encore une autre région du cerveau, elle porte un nom, alors là, compliqué, ça s'appelle le noyau accumbens. Cette région-là nous permet de ressentir du plaisir. Et cette région-là aussi fonctionne moins bien chez les personnes déprimées. Donc, tout ce qui est plaisant, elles vont le ressentir moins bien, puisque cette région est inefficace chez la personne déprimée. Et enfin, encore une autre région, l'hippocampe, qui s'appelle comme ça parce qu'elle ressemble à un petit hippocampe, qui est impliqué dans tout ce qui est mémoire, surtout mémoire des épisodes vécus, de ce qu'on vit au quotidien, et également régulation des hormones du stress. Cette région-là est également dysfonctionnelle chez les personnes dépressives. Donc, vous voyez, c'est pas une région du cerveau seulement qui fonctionne moins bien. C'est un ensemble de régions, mais qui ont des fonctions qui permettent d'expliquer toute la symptomatologie qu'on observe chez les personnes dépressives.
Vous êtes neurobiologiste. Est-ce qu'on peut dire que les neurosciences ont permis de voir tout ça ? Est-ce qu'on le savait avant tout cela ?
On le savait pas avant, c'est-à-dire il y a eu des progrès fulgurants en fait qui ont été accomplis grâce à tout ce qu'on appelle les techniques de neuroimagerie qui existent actuellement, c'est-à-dire on peut actuellement faire des images chez un sujet éveillé et vivant, des images du cerveau. Évidemment, il y a 100 ans, on pouvait pas faire ça. Il y a 100 ans, l'approche qui était utilisée par les cliniciens, c'était quand certains patients avaient des pathologies, on pouvait éventuellement prélever le cerveau au décès du patient et l'observer. Mais c'était des études post-mortem. À ma connaissance, c'est une stratégie qui n'avait pas été utilisée pour la dépression. Actuellement, on peut voir le cerveau d'un déprimé. Déjà, on peut voir sa structure. Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus grosses, des régions qui sont plus petites chez les personnes déprimées ? Ça, c'est une approche qui a été faite. Et puis, une autre approche, c'est ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle, c'est de voir comment le cerveau en fonctionnement à des moments précis. Donc, on peut voir le cerveau en fonctionnement à l'état de repos, c'est-à-dire je vous mets dans une machine et je vous demande de ne rien faire. Or, bien sûr, on ne peut pas ne rien faire. Quand on se met dans une machine comme ça où on n'a rien à faire pendant une demi-heure, des pensées nous viennent. Évidemment, les pensées qui viennent chez un sujet dépressif ne sont pas les mêmes que celles qui viennent chez un sujet normal. Donc, on peut voir ce qui se passe dans le cerveau de ce sujet au repos. Et après, on peut aussi voir ce qui se passe dans le cerveau du sujet pendant qu'il est en train d'accomplir une tâche particulière. Par exemple, on lui demande d'évoquer ce qu'il a, un souvenir plaisant, et on regarde qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Et donc, avec ces trois stratégies, c'est-à-dire l'imagerie morphologique, c'est-à-dire qui permet juste de voir le volume des aires cérébrales, l'imagerie fonctionnelle au repos, et puis l'imagerie pendant des tâches précises, on a pu voir toute une série d'altérations chez les sujets dépressifs. Donc, le sujet dépressif a réellement des altérations biologiques du fonctionnement du cerveau. Ce n'est pas un malade imaginaire. Ce sont des choses qui existent réellement. Et on peut observer les mêmes altérations chez des animaux qui sont dépressifs.
Chez des animaux. Alors, vous, vous travaillez essentiellement avec des souris.
Oui, nous travaillons, évidemment, quand on essaie, nous essayons de mettre en place des nouveaux traitements de la dépression. Donc, nous ne pouvons évidemment pas étudier ces traitements directement chez l'homme. Il faut faire de l'expérimentation animale. Et donc, nous utilisons des souris qui sont déprimées et nous essayons de les soigner.
Alors, comment vous savez qu'elles sont déprimées ?
Évidemment, une souris ne parle pas, donc on ne peut pas l'interroger, lui faire passer une échelle de dépression. Mais par contre, elle peut présenter un comportement qui ressemble à un comportement déprimé. Premièrement, un déprimé humain a une perte de plaisir, c'est-à-dire les choses qui lui faisaient plaisir auparavant, maintenant ne suscitent plus de plaisir chez lui. Donc ça, on peut le tester chez la souris. On peut par exemple lui présenter des aliments ou des boissons appétantes.
Comme quoi, par exemple ?
Comme par exemple du sirop.
Alors vous mettez du sirop d'un côté et de l'eau de l'autre, par exemple ?
Voilà, on lui met deux biberons, un biberon de sirop, un biberon d'eau plate. Ben, une souris normale va préférer évidemment le sirop. Une souris dépressive, c'est pas qu'elle va pas boire le sirop, mais elle va prendre le sirop autant que l'eau, quoi. Enfin, je veux dire, elle va pas marquer.
Elle fera pas de différence.
Elle fera pas de différence, un petit peu comme si tout était pareil. Ou bien, donc ça, c'est un critère de dépression chez la souris. Un autre critère de dépression, c'est une forme de négligence, d'apathie, c'est-à-dire, par exemple, une souris, c'est un animal qui passe beaucoup de temps dans sa journée à se lustrer le pelage, à se toiletter, et une souris déprimée, en fait, ne se toilette plus, parce qu'elle s'en fiche, en quelque sorte. Donc, elle va avoir un pelage ébouriffé, mal coiffé, si je puis dire, et nous lui donnons des notes de propreté du pelage. Du pelage,
ah oui.
Qui nous permet donc d'avoir une idée de ce qu'on appelle les comportements auto-centrés, comportements centrés sur elles-mêmes. L'anhédonie, on peut aussi le voir dans d'autres
Alors,
choses.
Alors, ça veut dire la perte de plaisir, c'est ça ?
Voilà, ça c'est la perte de plaisir. On peut évidemment mesurer le comportement sexuel. On peut prendre différents indicateurs de choses. Et l'ensemble de ces indicateurs vont nous montrer que la souris, à la fois, elle est anhédonique, à la fois, elle est apathique, prostrée. Et donc, ce sont les principaux indicateurs qu'on utilise. Après, on peut faire encore d'autres choses. On peut mesurer leur anxiété, elles vont être plus anxieuses, etc. Donc, ces animaux, effectivement, vont présenter ces altérations comportementales. Et si on traite la souris avec un antidépresseur, la souris va redevenir normale.
On peut donner des antidépresseurs à des souris ?
Bah bien sûr, on peut donner des antidépresseurs à des souris. On leur donne ça dans de l'eau de boisson. Et puis, donc, la souris va boire sans le savoir de l'antidépresseur. Et si la souris est normale, ça ne va rien lui faire. Mais si elle est déprimée, là, du coup, ça va permettre de restaurer les altérations comportementales qui existent chez cet animal.
Nous parlons de souris. On parle de dépression, mais vous dirigez un laboratoire où il y a des souris et sur lesquels on fait des expérimentations sur la dépression. Et vous nous disiez qu'une souris pouvait être dépressive et que ça pouvait se voir qu'une souris est dépressive et qu'on leur donnait des antidépresseurs. Mais c'est quoi un antidépresseur ?
C'est quoi un antidépresseur? Bah, il existe un certain nombre de molécules. Donc, le plus connu est le Prozac. C'est pas forcément le plus efficace. Ça, c'est ce qu'on appelle les pharmacothérapies. C'est l'un des traitements de la dépression. Ça consiste à administrer des molécules qui vont avoir pour effet d'augmenter la neurotransmission dans le cerveau. C'est-à-dire, dans le cerveau, la communication entre les zones cérébrales se réalise grâce à des molécules qu'on appelle des neurotransmetteurs. Certains de ces neurotransmetteurs sont déficitaires dans la dépression. Du coup, on peut utiliser ces molécules comme le Prozac qui vont augmenter le taux d'un neurotransmetteur en particulier, qui est la sérotonine, pour le restaurer à un état normal.
Ça sert à quoi, la sérotonine ?
La sérotonine a beaucoup de fonctions dans le cerveau. Premièrement, la sérotonine, c'est une molécule qui n'existe pas que dans le cerveau. Elle existe partout dans le corps. On la trouve surtout dans l'intestin, beaucoup plus que dans le cerveau. Puis on a un petit peu dans le cerveau, qui est fabriqué dans le cerveau directement. Et là, elle a un rôle dans l'humeur et dans l'anxiété. Donc, elle est déficiente chez les personnes.
On peut dire que c'est l'hormone de la bonne humeur ?
Alors, je ne serais pas aussi simplificatrice que ça. C'est un petit peu plus compliqué. Et surtout, on a longtemps pensé que les effets du Prozac et des antidépresseurs de sa catégorie étaient liés à sa capacité à augmenter la sérotonine, mais on sait maintenant que c'est faux. C'est-à-dire, le Prozac augmente la sérotonine, mais il augmente la sérotonine dès qu'on le prend. Dès qu'un patient commence à manger le médicament, son taux de sérotonine augmente. Or, les effets bénéfiques sur l'humeur du patient ne surviennent qu'après plusieurs semaines. Donc ça ne peut pas être à elle seule l'augmentation de sérotonine qui explique l'effet antidépresseur de la molécule. Il doit y avoir d'autres mécanismes qui surviennent et qui expliquent l'efficacité clinique de ces molécules.
Il y a quoi comme autre neurotransmetteur ?
Qui participe dans la dépression.
Oui.
En fait, alors il y a la noradrénaline, ça aussi, ce sont des traitements qui existent déjà, parce qu'en réalité, dans les antidépresseurs existants, il y en a qui stimulent la sérotonine, d'autres qui stimulent uniquement la noradrénaline et d'autres qui stimulent les deux.
Et c'est quoi la noradrénaline ?
La noradrénaline, c'est également un neurotransmetteur.
Et qui sert à quoi ?
Il participe lui aussi à l'anxiété, au processus attentionnel, donc à l'éveil. Ça, ce sont les antidépresseurs classiques qui existent sur le marché. Actuellement, en développement, il y a des antidépresseurs qui vont agir sur le glutamate. Donc, ce sont des substances qui sont en essai actuellement, qui ont des effets assez fulgurants parce que les effets surviennent après une seule prise, mais ils ne se maintiennent pas dans le temps. Donc, c'est une autre piste, mais c'est une piste qui est plutôt utilisée dans des cas assez graves de dépression pour l'instant. Ce n'est pas utilisé en routine.
Revenons un petit peu sur le lien qu'il y a, justement, vous disiez que dans la sérotonine, il y en avait dans le cerveau, mais encore plus dans l'intestin. Est-ce qu'il y a un lien entre l'intestin et le cerveau ? Beaucoup ont lu le charme discret de l'intestin et pensent que la flore intestinale semble importante aussi pour lutter contre la dépression.
Il y a effectivement des travaux tout à fait sérieux qui sont menés, alors notamment par un collègue qui s'appelle John Cryan à l'université de Cork en Irlande. Et donc, il a montré que la diversité de la flore intestinale, c'est-à-dire en fait, l'intestin est colonisé par des micro-organismes et il y en a des milliers de micro-organismes différents. La diversité de cette population est réduite dans les états dépressifs. Alors, bien sûr, c'est parfois un peu difficile de savoir quelle est la cause et quelle est la conséquence. Est-ce que c'est un mécanisme qui induit la dépression, c'est-à-dire ils ont une diversité, c'est pas la quantité de flore, mais la diversité de la flore, ou est-ce que c'est l'inverse, c'est-à-dire par exemple vous êtes déprimé, du coup vous allez moins au restaurant, vous allez moins chez des amis, donc vous êtes exposé à une alimentation moins diversifiée, ça contribue à une diversification moindre des micro-organismes de l'intestin. Ça, on ne peut pas savoir dans quel sens ça va. En tout cas, cette diminution de la diversité des micro-organismes dans l'intestin se retrouve aussi chez l'animal déprimé, donc ce n'est pas spécifique à l'homme. Et là, il y a des expériences tout à fait fascinantes qui ont été menées de ce qu'on appelle la transplantation fécale. En fait, c'est des expériences qui ont été menées chez la souris. Ils prennent des souris qui sont déprimées, des souris qui sont non déprimées. Ils transplantent le caca, si je puis dire, de la souris déprimée vers la souris non déprimée. La souris non déprimée devient dépressive. Et inversement, si vous prenez celui de la souris non dépressive et que vous le mettez dans la souris dépressive, ça va la soigner. Donc ça montre tout à fait, ces échantillons, ils contiennent les micro-organismes. Et donc ça montre que ces micro-organismes peuvent effectivement jouer un rôle causal. C'est pas juste associé à la dépression, parce que ça pourrait juste être quelque chose de corrélé à la dépression, qui se retrouve en même temps que la dépression, mais qui ne cause pas la dépression. Mais le fait que quand vous le modifiez chez un sujet non déprimé, ça cause la dépression, et que quand vous le modifiez chez un sujet déprimé, ça enlève la dépression, ça porte à penser qu'il y a un rôle causal. Alors évidemment, tout ceci est en lien avec le cerveau, parce que l'intestin est lié au cerveau par un nerf qui s'appelle le nerf vague. Et ces mêmes chercheurs de l'université de Cork dont je vous parlais, qui font toutes ces expériences, ont montré que, par exemple, quand vous faites ces transplantations fécales et que vous obtenez ces effets bénéfiques ne s'observent plus quand on coupe ce nerf qui relie l'intestin au cerveau. Donc ça veut dire que l'effet bénéfique, bien sûr, mobilise en premier l'intestin, mais ensuite, cet intestin va communiquer avec le cerveau par ce nerf et avoir des effets cérébraux. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la dépression, on trouve des modifications du fonctionnement cérébral. Ces modifications du fonctionnement cérébral sont réversées par ces transplantations fécales. Ce traitement, qui est un traitement qui se fait en périphérie, modifie les altérations cérébrales qu'on a dans la dépression. Donc ça veut dire que ça a un effet jusque dans le cerveau.
Ben, ça veut dire qu'il vaut mieux traiter son intestin que son cerveau ?
Ça veut dire qu'on peut traiter l'intestin, enfin, c'est une des portes d'entrée pour traiter ce qui se passe dans le cerveau. D'ailleurs, il y a même une thérapie qui consiste juste à stimuler le nerf vague chez des patients chez lesquels d'autres traitements ne marchent pas. Donc ça, c'est une approche. En fait, pour prendre en charge la dépression, il y a pas mal d'approches qui existent. L'une des approches est celle-ci. Alors ça fait grand bruit parce qu'évidemment, étant donné que le type de traitement qui est utilisé, ça suscite beaucoup d'intérêt.
C'est assez original, effectivement.
C'est assez original. Alors, évidemment, ils sont en train de développer ça en comprimé. Hein,
donc, qu'on avalerait, de matière fécale.
Qui contiendrait...
des matières fécales de gens qui ont la pêche, quoi.
Voilà. Donc, ça, c'est du genre de choses qui sont en développement.
Et vous y croyez?
Et d'autres, les données sont des données scientifiques qui sont tout à fait sérieuses. C'est pas des hurluberlus. Les scientifiques qui font ça publient dans des journaux très sérieux. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner.
Qui fonctionne pour certaines personnes.
Alors, ça n'a pas été utilisé à grande échelle, mais c'est une approche. D'autres études qui me semble extrêmement intéressante concernant les effets des antidépresseurs, en réalité, ils ont montré que les effets bénéfiques d'un traitement avec des antidépresseurs ne surviennent que, disons, 5-6 semaines après le début du traitement, après la première prise. Ce qui fait d'ailleurs que les gens, souvent, arrêtent de le prendre parce qu'ils n'observent pas tout de suite des effets. Mais ce qui a été observé aussi, c'est que dès une semaine après le début du traitement, même si les personnes ne sont pas encore guéries, il y a quelques petites modifications qui peuvent se constater chez ces personnes. Notamment, la perception de l'expression faciale. Les personnes déprimées voient un monde déformé, déformé vers le négatif. Et une des choses qui sont extrêmement dysfonctionnelles, c'est que les personnes déprimées ne peuvent pas identifier les expressions faciales de plaisir. Normalement, quand vous souriez, vous pouvez identifier que l'autre sourit. C'est-à-dire quand l'autre vous encourage par une expression faciale bienveillante, vous le savez parce que vous voyez l'expression faciale de la personne. Les personnes déprimées ne peuvent plus identifier ces expressions faciales de bienveillance, etc. Ce qui fait que vous avez beau être bienveillante autour d'elles, ça va pas avoir d'effet puisqu'elles ne peuvent pas le voir. Donc c'est embêtant.
Oui, mais ça c'est hyper intéressant que vous disiez ça parce que quelquefois on comprend pas effectivement. Ça permet de comprendre nos proches qui sont dépressifs ou nos collègues qui sont dépressifs.
Ils ne vont pas réagir à ces actes de bienveillance. Or, après une semaine d'administration d'un antidépresseur, les personnes vont pouvoir à nouveau identifier les expressions faciales, émotionnelles, de bienveillance, etc. Donc du coup, sans doute qu'une bonne stratégie pourrait aussi être de combiner l'antidépresseur avec un entourage bienveillant, etc. C'est-à-dire, si on fait que l'entourage bienveillant, comme les personnes n'ont pas les ressources pour l'identifier, elles ne pourront plus répondre à ces sollicitations agréables. Alors que l'antidépresseur va permettre comme une remise en route. Mais après, l'étape d'après de cette remise en route requiert que l'entourage prête un peu attention à ces personnes.
Très intéressant, ça veut dire que non seulement il y a quelque chose de physique, mais aussi quelque chose de profondément psychologique qui est la relation humaine.
Exactement, qui joue un rôle fondamental dans cette pathologie.
Alors, on a parlé très très vite du cerveau, de l'intestin. Est-ce que, comme on parle de cette relation humaine, on sait aussi qu'une des causes de la dépression, c'est aussi la solitude, être seule?
Ça, c'est évidemment un facteur. Tout à l'heure, je parlais de stress. Ben, nous sommes une espèce sociale. Et donc, quand nous ne pouvons pas développer cet aspect, évidemment, c'est l'un des stress qui contribue aux états dépressifs. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules et ça peut sans doute les conduire à des états dépressifs.
Un grand merci à Catherine Belzung. Nous nous retrouvons la fois prochaine pour continuer ces émissions passionnantes sur la dépression.